Lang transmet une conception antique de la passion, qui n'est, une passion qui n'est pas un mouvement de l'âme, mais plutôt une défaillance du corps, une conséquence du péché originel, qui est aussi une défaite de la raison. Ainsi, l'empreinte stoïcienne est bien présente dans le Manipulus Florum, comme en témoigne aussi l'utilisation du terme « perturbatio ». Perturbatio, c'est le mot par lequel Cicéron traduisait le pathos grec. Donc, perturbatio est un mouvement de l'âme absolument négatif. À chacune des 15 occurrences de perturbatio, la perturbation est négative. On y associe souvent le génitif animi ou cordis, ce qui nous rassure quant à son aspect affectif, contrairement à patio, qui est associé au corps, donc patio corporis. Ce qui ressort de l'utilisation de perturbatio est... Non, je ne l'ai pas ici. Ah oui, c'est là. Bon. Et à l'image de patio, l'impératif de ne pas avoir de perturbation afin d'assurer le progrès spirituel. Par exemple, la tristesse est une perturbation qui conduit l'homme à la mort. La perturbation du cœur ne permet pas à l'homme de considérer ce qui est bon. La troisième étoile de la couronne de la gloire éternelle est d'avoir une volonté sans perturbation. La magnanimité est de ne pas succomber aux perturbations, etc. Ainsi, il y a un recoupement dans l'utilisation de perturbatio et de patio, les deux étant des phénomènes négatifs qui causent la confusion et le désordre dans l'âme, éloignant du même coup le chrétien du salut. Cependant, la différence est que la perturbation est clairement un phénomène de l'âme, tandis que la passion est un phénomène du corps. Mais dans chaque cas, le contenu sémantique des mots, bien qu'il soit stoïcien, est intégré dans un cadre anthropologique chrétien qui confère au mouvement de l'âme une potentialité salvatrice, ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans le stoïcisme. Donc, ce qui change au 13e siècle et qui n'est pas intégré dans le Manipulus Florum suite à la lecture d'Avicenne et d'Aristote, les scolastiques, à partir de Jean La Rochelle, qui est un des premiers franciscains des années 1240, font la distinction entre la passion naturelle, biologique, constitutive de la nature humaine, et la passion non naturelle, une passion morale, conséquence du péché originel. Donc, la première précède la faute et la seconde suit la faute. C'est par cette distinction que la passion retrouve une potentialité vertueuse et aussi par l'équivalence augustinienne qu'on a vue dès le départ entre motus animi, affectus, perturbatio et patio. Thomas d'Aquin fait alors déborder la passion du corps vers l'âme, et ce qui est notamment exprimé par la question 22 de la prima secundae de la Summa Theologica. Et y a-t-il quelques passions dans l'âme? Donc, c'est à partir de ce moment qu'on entend pour les premières fois l'expression « passio animi », ce qui rompt définitivement avec la conception antique de la passion. Donc, par son choix éditorial, Thomas d'Irlande évite d'entrer dans cette discussion et préfère en rester au sens antique de passion-émotion, une passion liée au corps. Donc, en conclusion, plusieurs interrogations surgissent après avoir fait ce rapide coup de sonde de mots d'émotion. Ce qui saute aux yeux est la place importante réservée à la conception de l'affectivité propre au 12e siècle, tant par le choix des mots que par les auteurs choisis, notamment Bernard de Clairvaux, qui a une place prépondérante. La question est alors de savoir pourquoi est-ce que Thomas d'Irlande a exclu les développements récents de la philosophie morale, tels que présentés chez Thomas d'Aquin, dont on présume qu'il a lu l'œuvre. La première hypothèse serait entre autres que selon les Rouse, ces deux sources principales seraient des florilèges cisterciens. Donc, nécessairement, il y a une base cistercienne au Manipulus Florum. Mais je crois aussi que ça s'explique par un peu le public visé ou réel du Manipulus Florum, qui serait un public, je crois, non académique. En effet, au 14e siècle, il y a une demande de plus en plus importante de la part d'un public large, un public laïque, pour une direction spirituelle, pour une religiosité laïque, qui est liée à l'émergence de la dévotion privée. Donc, la spiritualité monastique, cistercienne en l'occurrence, se trouverait à remplir ce rôle, participant à ce que Dominique Ionniac-Pratt a appelé la monachisation de l'Église, qui serait le terme logique de la réforme grégorienne. Donc, ce que j'ai un peu comme ce qui me fait dire comme hypothèse que le Manipulus Florum serait non seulement utilisé par des étudiants, mais aussi un public plus large qui sortirait de l'académie pour leur propre progression spirituelle, pour leur propre vie morale. Ce serait un peu mon hypothèse tirée de ça. Donc, voilà.